de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Ravi de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Je vais vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le commentaire, l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Comme d'habitude, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde.
RRI, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Chers auditeurs et auditeurs, bonsoir. Voici la voix de l'Indonésie présente le journal aujourd'hui avec Maudrey. Il y a quelques éléments à informer entre autres. Secrétaire général de l'ONU n'abandonnera pas son appel au cessez-le-feu. Commémoration de la journée des droits de l'homme est un moment pour réfléchir aux principes des droits de l'homme. Ministre du Droit et des Droits de l'Homme de la République d'Indonésie a alerté des violations des droits de l'homme liées aux réfugiés Rohingyas. Indonésie est coprésidente de l'Alliance mondiale des mangroves, qui compte 34 membres. Ministre de l'Investissement est optimiste que Laval sera la clé pour atteindre l'objectif d'investissement de 2024. 315 réfugiés Rohingyas ont de nouveau atterri à Pidi et à Cebesar. Et Banque d'Indonésie et Banque de Corée conviennent de mettre en œuvre des transactions en monnaie locale en 2024. Mon cher Jeter, voici les nouvelles en complet. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, lors de la conférence du Forum de Doha au Qatar dimanche, 10 décembre, a déclaré qu'il n'abandonnerait pas son appel à un cessez-le-feu humanitaire à Gaza, citant Tempo. Dimanche 10 décembre, Antonio Guterres a même ajouté que la guerre à Gaza avait porté atteinte à la crédibilité et à l'autorité du Conseil de sécurité de l'ONU. Vendredi 12 août, les États-Unis avaient opposé leur veto à une proposition du Conseil de sécurité de l'ONU appelant à un cessez-le-feu humanitaire immédiat dans la guerre entre Israël et le groupe militant palestinien Hamas. Pendant ce temps, le premier ministre qatari, Sheikh Mohammed bin Abdelrahman Al Thani, a déclaré lors de la réunion que Doha continuerait de faire pression sur Israël et le Hamas pour qu'ils mettent en ouvre un cessez-le-feu, même si les chances étaient minces. Le ministre indonésien du Droit et des Droits de l'Homme, Yasona Lauli, a déclaré que la commémoration de la 75e Journée mondiale des droits de l'homme pourrait être un élan pour réfléchir sur les principes des droits de l'homme. Il a déclaré cela dans ses remarques lors de la commémoration de la 75e Journée mondiale des droits de l'homme à Lapangan Banteng, Jakarta, dimanche 10 décembre. Yasona Lauli a en outre déclaré que la commémoration de la Journée des droits de l'homme, qui a choisi cette fois le thème « Harmonie dans la diversité », a été considérée comme pertinente et importante. La raison est c'est que l'harmonie dans la diversité rappelle l'importance de reconnaître, de respecter et de célébrer l'abondante diversité de l'Indonésie. Promouvoir l'harmonie dans la diversité signifie lutter contre la discrimination, les préjugés, l'intolérance et les inégalités. Le ministère du Droit et des Droits de l'Homme a mis en œuvre un certain nombre de programmes dans le domaine des droits de l'homme, ciblant les agences gouvernementales et les acteurs économiques, notamment le plan d'action national pour les droits de l'homme et la stratégie nationale pour les entreprises et les droits de l'homme. Le ministre du Droit et des Droits de l'Homme de la République d'Indonésie, Yasona Lawli, a déclaré qu'il serait attentif aux allégations de violence des droits de l'homme liées au grand nombre de réfugiés rohingyas arrivant en Indonésie. En marge de la commémoration de la 75e Journée mondiale des droits de l'homme au centre de Jakarta dimanche soir, 10 décembre, le ministre Yasona, cité par Antara, a déclaré qu'il existait un syndicat de trafic d'immigrants et que ces réfugiés étaient des victimes des mafias qui les ont pris. Yasona a admis que l'arrivée des réfugiés perturbés un certain nombre de résidents locaux, notamment à Aceh et au nord de Sumatra, de sorte que son parti cherchera, en collaboration avec les agences compétentes, la meilleure manière de résoudre des problèmes, tout en restant attentif aux aspects liés aux droits de l'homme. Selon le ministère des Droits et des Droits de l'Homme, il y a actuellement environ 13 000 réfugiés d'Afghanistan, d'Iran et de Rohingya. L'Indonésie a reçu la confiance pour devenir coprésidente de la Mangrove Alliance for Climate MAC, qui compte des membres de 34 pays dans le monde. C'est ce qu'a déclaré le ministre coordonnateur des Affaires maritimes et de l'investissement, Menko Marfes, par intérim. Eric Toir, lors d'une visite à Dubaï aux Émirats Arabes Unis, dans le cadre de la 28e conférence des partenaires ou COP28. Dans sa déclaration citée par Antara lundi, 11 décembre, Erick Thohir a déclaré que l'Indonésie et les Émirats Arabes Unis ainsi que d'autres pays membres ont fait preuve de préoccupation et d'engagement en faveur de la restauration et de la conservation des mangroves qui couvre 70% de la superficie des mangroves dans tout le pays, le monde. Eric a déclaré que les Émirats Arabes Unis et l'Indonésie étaient convenus de créer le Centre international de recherche sur les mangroves, IMRC, à Bali. L'IMRC, qui pourrait devenir le plus grand laboratoire de mangroves au monde, est un forum de coopération internationale visant à accroître les capacités grâce à l'échange d'experts et à la recherche conjointe. Le ministre de l'Investissement et chef du Conseil de coordination de l'investissement BKPM, Bahlil Hadalia, a déclaré que Laval, y compris le secteur qui respecte le principe de durabilité et la clé pour atteindre l'objectif d'investissement de 1650 billions de roupies en 2024. Le ministre Bahlil à Jakarta lundi, 11 décembre, cité par Antara, a souligné que bien que les conditions actuelles d'incertitude mondiale influencent les décisions d'investissement des investisseurs, l'Indonésie a pris de très grandes mesures stratégiques pour être en mesure d'attirer les investissements à l'échelle mondiale. Les étapes stratégiques pour attirer les investissements sont la stabilité politique, juridique et économique, des politiques adaptives et progressistes visant à améliorer le climat d'investissement. Le potentiel des ressources humaines RH, à la fois en termes de disponibilité de main-d'œuvre et de marché, ainsi que le potentiel d'exploitation en aval d'abondantes ressources naturelles. Environ 315 réfugiés Rohingyas ont de nouveau débarqué dans la zone côtière de Blang Raya, dans la région de Pidi et sur la plage de Blang Ulam, dans la région d'Aceh Besar, province d'Aceh, dimanche 10 décembre, a rapporté Antara. Le chef de la police de Muaratiga, Pidi, Ibda Effendi, a enregistré que le nombre total de Rohingyas qui y ont débarqué était d'environ 180 personnes. Pendant ce temps, à Aceh Besar, le chef de la police de Krung Raya, Roli Yuiza Awai, a déclaré qu'environ 135 immigrants Rohingyas y avaient débarqué. Antara a noté que l'arrivée des réfugiés Rohingyas dimanche était la 9e vague à Aceh depuis novembre 2023. Les points d'arrivée des immigrants étaient dans la région de Pidi. Il y avait 4 vagues. Biren et Aceh Oriental avaient chacun une vague. La ville de Saban avait 2 vagues et la dernière était à Aceh Besar d'une vague. La Banque Indonésie et la Banque de Corée ont convenu d'encourager l'utilisation de la monnaie locale dans les transactions financières et économiques, LCT, avec un objectif de mise en œuvre en 2024. Le gouverneur de la Banque Indonésie, Peri Warjio, après le haut niveau de la BI et BOK, Banque Indonésie et Bank of Corée, lors de la réunion à Nusa Dua, Bali, dimanche 10 décembre, cité par Antara, a déclaré que cette collaboration renforcerait la coopération financière bilatérale entre la Corée du Sud et l'Indonésie. Cette collaboration devrait minimiser l'exposition aux risques et aux coûts de change pour les acteurs économiques et les auteurs utilisateurs. Par ailleurs, le gouverneur de la Banque de Corée, Ri Chang-yong, a déclaré que sur la base de l'expérience réussie de l'Indonésie dans la mise en œuvre du cadre de transactions en monnaie locale LCT avec un certain nombre de pays au cours des dernières années. On espère que le cadre LCT entre la Corée du Sud et l'Indonésie sera également à voir du succès. Selon Ri Chang-yong, l'intérêt des entreprises sud-coréennes pour l'Indonésie continue de croître. Bon, chers auditeurs, c'est tout, les nouvelles d'aujourd'hui.
Ces auditeurs, bonsoir. Voici le commentaire ayant pour le titre « L'Indonésie et l'Union européenne élaborent des lignes directrices sur l'intelligence artificielle IA. » Afin de prévenir une éventuelle utilisation abusive des nouvelles technologies, le ministère indonésien de la communication et de l'informatique a élaboré des lignes directrices éthiques pour les programmeurs qui utilisent l'intelligence artificielle ou IA. Les activités de programmation basées sur l'IA doivent être fondées sur l'éthique régissant son utilisation et son développement. C'est ce qui indique dans le brouillon qui stipule qu'une ligne directrice est nécessaire pour atténuer tous les impacts et pertes pouvant survenir à la suite de l'utilisation de l'IA. Ensuite, ce brouillon recommande aux programmeurs de préparer une stratégie de gestion des risques en cas de catastrophe utilisant l'IA, ainsi que de préparer des rapports et des mécanismes de récupération pour de tels incidents. Toutefois, ce brouillon ne précise pas davantage les types de pertes ou de catastrophes résultant de l'utilisation de l'IA. La ligne directrice éthique couvre également la protection de la vie privée et de l'humanité et le fait que l'utilisation de l'IA, y compris le développement des produits et la commercialisation de l'IA, doit soutenir l'innovation et ne pas remplacer l'existence humaine. Comme l'Indonésie, l'Union européenne est également parvenue à un accord sur la loi dite sur l'IA lors d'une séance marathon de négociation qui a duré 36 heures et s'est terminée vendredi soir 8 décembre 2023. Cela reflète les énormes intérêts politiques et commerciaux qui se cachent derrière cela. L'Europe est désormais à l'avant-garde de la réglementation de l'IA, ce que réclament depuis longtemps les plus grands experts de l'IA du monde entier. Tous les détails concernant l'accord conclu ne sont pas encore connus. Le Parlement européen et les États membres de l'Union européenne doivent encore donner le dernier mot. Mais ce qui est sûr, c'est que le cadre est désormais clairement défini, indiquant clairement comment l'Europe souhaite limiter l'IA dans les années à venir tout en établissant des normes mondiales. Le principe de base de ces lois est que plus les risques associés au système de l'IA sont grands, plus les règles doivent être strictes. L'un des débats les plus féroces a eu lieu autour de la discussion sur la réglementation des modèles d'IA les plus puissants, également connus sous le nom d'IA à usage général ou GPAI, y compris le célèbre chatbot ChatGPT. Au cours des dernières semaines, l'Allemagne, la France et l'Italie ont lancé en vigueur le lobby technologique en faveur de la suppression de ces modèles de la loi et en exigeant simplement une réglementation autonome. Selon eux, une réglementation trop stricte entraverait l'innovation en Europe. Le lobbying n'a pas eu un succès total. Le modèle GPAI sera également soumis à la loi. Cela signifie que l'entreprise à l'origine de ce projet doit, entre autres, être transparente sur les données utilisées pour entraîner le modèle. Ils doivent également se conformer à la loi européenne sur le droit d'auteur et expliquer quand des textes, des images ou des sons sont générés via l'IA. Si la nouvelle réglementation est officiellement adoptée au début de 2024, on estime que cette voie vient d'entrer en vigueur à la fin de 2025 ou en 2026. C'est du retard, c'était le commentaire pour ce soir.
Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour l'histoire d'aujourd'hui avec Maudry. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 11 décembre 1946, la création de l'organisation UNICEF. Chaque jour, le Fonds international d'urgence des Nations Unies pour l'enfance, ou UNICEF, est une organisation fondée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 11 décembre 1946. L'objectif principal de cette organisation est de fournir une aide humanitaire aux enfants du monde entier. Initialement, la création de l'UNICEF visait à fournir une assistance aux enfants et aux mères touchées par la Seconde Guerre mondiale. Lors de sa création en 1953, l'UNICEF a adopté pour mandat d'aider les enfants vulnérables à travers le monde, quelle qu'en soit la cause. Le nom a été changé en Fonds des Nations Unies pour l'enfance, bien qu'il utilise toujours le même acronyme, à savoir UNICEF. Chers amis, on continue l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 11 décembre 2001, l'adhésion de la Chine à l'OMC. La Chine est devenue membre de l'Organisation mondiale du commerce OMC le 11 décembre 2001. Jusque dans les années 1970, l'économie chinoise était gérée par le gouvernement communiste et fermée aux autres économies. Simultanément aux réformes politiques, la Chine a commencé au début des années 1980 à ouvrir son économie et à signer un certain nombre d'accords commerciaux régionaux. La Chine a obtenu le statut d'observateur au GATT et depuis 1986 a entamé des efforts pour adhérer à l'organisation. Depuis son adhésion à l'OMC, la Chine joue un rôle important dans la production de biens de consommation grâce à ses avantages en matière de main-d'œuvre qualifiée, d'infrastructure et de systèmes de fabrication. Ses exportations ont fourni des produits de haute qualité à des prix abordables aux entreprises et aux communautés du monde entier. Ce jour est tard, nous terminons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 11 décembre 2008, jour du décès de l'ancien ministre indonésien des Affaires étrangères, Ali Alatas. Ce jour est tard, Ali Alatas est décédé à Singapour le 11 décembre 2008, à l'âge de 66 ans. Ali Alatas est un diplomate indonésien qui a été ministre des Affaires étrangères de la République d'Indonésie de 1988 à 1999, sous les présidents Suharto et B.J. Habibie. À sa mort, Ali Alatas était toujours envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour la Birmanie, envoyé spécial du président de la République d'Indonésie pour les questions du Moyen-Orient et président du Conseil consultatif présidentiel. Son corps a été enterré le 12 décembre 2008 au cimetière des héros de Kalibata lors d'une cérémonie militaire dirigée directement par le président Susilo Bambang Yudhoyono. Bon, chers auditeurs, c'est tout. L'histoire d'aujourd'hui.
Siapkanlah dirimu, tunjukkanlah gayamu, karena malam ini menantimu. Lepaskanlah semua, segala beban yang ada, kini sudah tibalah saatnya. Jangan peduli semua, apa kata mereka. Salah kita sebut malam ini, bulan tersenyum, lihat kita menari. Bintang berkelip mengikuti irama nada melodi lagu kita. Bersama kita sambut malam ini. Lepaskanlah semua, segala beban yang ada, kini sudah tiba. Kata mereka bersama kita sambut malam ini, bulan tersenyum, lihat kita menari, bintang berkelip mengikuti ini.
akan membebaskan diri dari regang beban. Setelah ku lalui hari yang melelahkan, senyum senyam, kilau bintang menyapa dalam kebersamaan. Waktunya bagiku untuk beraksi, chemistry alami bereaksi, sinkronisasi frekuensi. What we need right now is a party.
Jangan peduli semua apa kata mereka, salah kita semua.
Chanson indonésienne, j'espère que vous l'aimez. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Chers auditeurs, voici mon Indonésie.
Chers auditeurs, pour la suivante, voici donc mon Indonésie, dont le titre est « Le gouvernement a distribué 8,5 millions de roupies pour le programme de rajeunissement de la plantation de palmiers à huile ». Le ministre coordinateur des affaires économiques, Erlangga Hartarto, a indiqué que jusqu'en 2023, le gouvernement indonésien avait distribué un total de 8,5 millions de roupies pour le programme visant à rajeunir les petites plantations de palmiers à huile, PSR. Au cours de la période 2017-2023, la superficie des jardins populaires rajeunis a atteint 306 000 hectares pour 134 000 agriculteurs. Le ministre coordinateur Erlangga, lors de la réunion nationale des produits du palmier à huile, cité vendredi dans un communiqué officiel à Jakarta, a expliqué que le programme a été mis en œuvre dans le but d'augmenter la productivité des plantations de palmier à huile de la population. Il a estimé que l'industrie du palmier à huile était l'industrie phare de l'Indonésie qui doit être à nouveau accélérée. En 2022, l'Indonésie serait capable de produire 46,82 millions de tonnes d'huile de palme. Pendant ce temps, la superficie des plantations de palmiers à huile des petits exploitants a atteint 6,23 millions d'hectares, soit 40,51% de la superficie totale des plantations de palmiers à huile en Indonésie en 2022. Plus de 16 millions de tonnes d'huile de palme ont été produites par les petits exploitants agricoles. Les autres efforts déployés par le gouvernement sont entre autres un programme d'infrastructure sous la forme d'une aide en semences, engrais, pesticides et machines agricoles. En termes d'augmentation des ressources humaines pour les plantations de palmiers à huile, Erlangga a déclaré que sa partie avait fourni une assistance à des programmes d'éducation et de formation dont le nombre de bénéficiaires en 2023 a atteint plus de 7 000 personnes avec des fonds totaux de 127 milliards de roupies. Le ministre coordinateur Erlangga a également évoqué les défis de l'industrie du palmier à huile liés à la politique de l'Union européenne sans déforestation EUDR et a souligné les questions importantes qui doivent être résolues immédiatement par l'Association indonésienne des producteurs de palmiers à huile, APKASINDO. En particulier, en ce qui concerne la vérification des données sur la durabilité des terres et certification ISPO ou huile de palme indonésienne durable, actuellement, il y a moins trois éléments fondamentaux qui constituent des défis futurs pour l'industrie indonésienne de palmiers. Premièrement, L'Union européenne sans déforestation qui pourrait potentiellement exclure les planteurs d'huile de palme de la chaîne d'approvisionnement mondiale. Deuxièmement, le règlement général sur la protection des données qui exige que tous les agriculteurs dont les produits sont ciblés par le ODR soumettent des données de géolocalisation de leur exploitation sans aucune garantie légale que les données seront protégées. Enfin, le ODR regroupera les pays en trois catégories, à savoir le risque faible, le risque moyen et le risque élevé. Le ministre Erlangga a également déclaré que le gouvernement et la Malaisie avaient effectué une mission conjointe en mai 2023 pour exprimer leur objection à l'EODR. En guise de suivi, un groupe de travail conjoint entre l'Indonésie et la Malaisie et l'Union européenne a été formé pour garantir que la mise en œuvre de l'EODR ne nuise pas aux pays producteurs. C'est du retard, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie, la diffusion en français.
Jiwa pun membekunya.
chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde, en plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.it. Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Ces auditeurs, le mariage est l'un des événements sacrés de la vie humaine. Dans divers groupes ethniques, cet événement est célébré par une série de processions traditionnelles assez uniques. Par exemple, lorsque la tribu Sasak à Lombok, dans l'ouest de Nusa Tenggara, organise un mariage, il y a une procession traditionnelle appelée tradition Nyongkolan où les mariés défilent ensemble jusqu'à la maison de la mariée après le contrat de mariage. Accompagné de la famille du marié et les parents, les dédarés ou les filles et les terounés ou les jeunes hommes, les personnalités religieuses, les chefs communautaires ou les chefs traditionnels portant des vêtements traditionnels, ainsi que les troupes de musique de gamelan ou les groupes de musiciens de tambouran ou accompagnés des tambours belek dans les cercles nobles. L'heure est déterminée par les deux parties. Il y a ceux qui résument en un seul temps, il y a aussi ceux qui font les arrangements une semaine après la conclusion du processus de contrat de mariage. Habituellement, cette tradition a lieu après les prières de midi. Ces rites, le but de cette procession est de présenter les mariés à la communauté, notamment aux proches et à la communauté où vit la mariée. Parce que généralement, toute la série d'événements de mariage se déroule du côté du marié, et pour que les résidents locaux sachent que les mariés sont devenus mari et femme légaux. Certains participants à cette procession apportent généralement des produits du jardin, des légumes et des fruits qui seront distribués aux proches et voisins de la mariée. Dans la pratique, en raison du facteur distance, cette procession ne se déroule pas à une distance réelle. Mais généralement, le groupe commence à marcher à une distance de 0,5 à 1 km de la maison de la mariée. À leur arrivée à la résidence de la famille de la mariée, les mariés exécuteront un sunkeman pour demander la bénédiction de la famille. C'est le signe que la famille a approuvé que leur fille soit emmenée par son mari. Il existe un mythe auquel le Sasak croit encore à propos de ce nyongkolan. Selon la croyance, si la tradition nyongkolan n'a pas lieu après la procession du contrat de mariage, alors le ménage des mariés ne survivra généralement pas longtemps ou la progéniture des mariés naîtra généralement avec un handicap physique. Bon, chers auditeurs, c'était le magazine culturel pour ce soir avec comme titre « La tradition nyongkolan à Lombok dans l'ouest de Nusa Tenggara ». Demain, nous nous retrouverons avec un sujet plus intéressant encore. À bientôt! Ku ingin kau juga.
cinta padamu. Senangnya hatiku rasakan.
Chers auditeurs, vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. En plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz, vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Et la rubrique suivante, voici Apprendre l'Indonésien. Bonsoir tous les amis. On se retrouve dans l'émission Apprendre l'Indonésien qui vous présente des phrases et des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre Voice of Indonesia, la station de radiodiffusion à l'étranger de RRI, avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue du ministère de l'Éducation, de la Culture, de la Recherche et de la Technologie de la République d'Indonésie. Le sujet d'aujourd'hui est Di Solo. Di Solo signifie à solo. Je vais vous présenter une conversation dont le titre est Sebelum membeli batik. Je répète, sebelum membeli batik signifie « avant d'acheter le batik ». Cette conversation a eu lieu entre Chris, un vlogueur australien, et Ayu, l'ami de Chris dans la communauté de vlogs au village du batik Laweyan à Solo. Chris a exprimé son désir de savoir comment fabriquer du batik avant de l'acheter.
Di kampung batik Laweyan Solo ini, kita bisa membeli beragam baju batik. Kita juga bisa belajar membatik.
Sebelum membeli baju batik, saya ingin tahu cara membuatnya.
Après avoir fait écouter la conversation, je vais vous introduire des expressions et des phrases liées au sujet d'aujourd'hui. Sebelum membeli batik. Sebelum membeli batik signifie avant d'acheter le batik. Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot ou chaque phrase deux fois. Vous pouvez le répéter après moi. Sebelum. Sebelum
signifie avant, membeli. Membeli signifie acheter. Baju batik. Baju batik signifie vêtements en batik. Ingin tahu. Ingin tahu signifie curieux. Cara. Cara signifie comment ou façon. Membuat. Membuat signifie créer. Sebelum membeli baju batik, saya ingin tahu cara membuatnya. Sebelum membeli baju batik, saya ingin tahu cara membuatnya. Signifie avant d'acheter des vêtements en batik, je veux savoir comment les fabriquer. Kampung. Kampung signifie village. Laweyan Solo. Laweyan Solo signifie Laweyan Solo. Beragam. Beragam signifie divers. Belajar. Belajar signifie étudier. Membatik. Membatik signifie faire du batik. Dans la conversation, vous entendez la phrase « Sebelum membeli baju batik, saya ingin tahu cara membuatnya. » Sebelum membeli baju batik, saya ingin tahu cara membuatnya. Signifie « Avant d'acheter un vêtement en batik, je veux savoir comment le fabriquer. » Dans cette phrase, il y a un mot « sebelum ». Je répète. Sebelum, qui relie les deux parties de la phrase, à savoir saya membeli baju batik dan saya ingin tahu cara membuat batik. Saya membeli baju batik dan saya ingin tahu cara membuat batik. Signifie j'achète des vêtements en batik et je veux savoir comment fabriquer du batik. Dans le contexte de la conversation, Chris avait le désir de savoir comment fabriquer du batik avant d'acheter des vêtements en batik. La conjonction sebelum, je répète, sebelum signifie avant, est placée avant la partie du discours qui énonce l'activité qui est réalisée au début. La partie du discours à laquelle est attachée la conjonction sebelum, sebelum signifie avant, peut être placée au début ou à la fin du discours. Allez, écoutez des exemples d'utilisation de la conjonction sebelum. Sebelum signifie avant dans une autre phrase. Avant d'aller au village batik Laweyan, Chris a préparé son équipement de vlogging. Chris a pris des photos avec des artisans du batik avant de rentrer chez lui. Le village de batik Laweyan est la destination des attractions touristiques de Surakarta. Cette zone est le centre de l'industrie du batik. Ce village est dans le district de Laweyan. On dit que Laweyan vient du mot Lao, qui signifie fille. Dans le passé, de nombreux habitants de cette région fabriquaient des tissus de haute qualité. Avant de terminer à apprendre l'indonésien d'aujourd'hui, écoutons encore une fois la conversation.
Di kampung batik Laweyan Solo ini, kita bisa membeli beragam baju batik. Kita juga bisa belajar membatik.
Sebelum membeli baju batik, saya ingin tahu cara membuatnya.
Chers amis, voilà l'émission à apprendre l'indonésien d'aujourd'hui. J'espère que cette édition pourra être utile pour vous en savoir plus sur la langue indonésienne. Nous nous rencontrerons dans la prochaine édition avec les différents sujets. Au revoir.
menuntaskan segala kata tanya, ditemani banyak bintang. Ku izinkan anganku melayang, apakah ini hayalan atau hanya sisa lamunan bahwa ku telah dapatkan mutiara dalam hatimu, sinari setiap langkahku, mengajak mimpi yang dulu menjadi nyata akhirnya.
Chers auditeurs, voilà la dernière chanson que vous écoutez. Et nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute.
Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour le magazine musical. Et cette fois, nous vous présentons une chanson crunchon intitulée Wajina, chantée par Enda Laras. Chers auditeurs, cette chanson a été créée et popularisée par Enda Laras comme cadeau du 66e anniversaire du maestro crunchon Waljina. Diffusée via diverses plateformes numériques le 7 novembre 2021, il marque également les 25 ans de travail d'Enda Laras en tant qu'artiste indonésienne. Cette chanson décrit la figure d'une Waljina toujours charmante, tant par ses œuvres qui colore le genre musical crunchon, qui par son caractère vocal ainsi que son caractère personnel. Enda Laras a en fait écrit cette chanson en 2016, en guise de dévotion et de respect envers Ibu Crunchon, qui a laissé un héritage de nombreuses œuvres à l'archipel indonésien. Bon, chers auditeurs, voici Enda Laras va chanter une chanson crunchon intitulée Wajina. Bonne écoute.
Ayu berkebaya warna
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde. Au revoir.